Le journal d'Haïti et des Amériques sur RFI, c'est avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond, bonjour à tous. On va faire aujourd'hui un focus sur le mouvement des Gilets jaunes en France dans notre revue de presse, puisque ce mouvement fait réagir les quotidiens du continent américain. L'allocution du président Macron est particulièrement attendue ce soir. Notre dossier du jour, à l'occasion des 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme, Véronique Guémard nous emmène à la découverte d'une ethnie qui vit en Amazonie péruvienne, les Shipibo. Leur leader dit son inquiétude quant aux expropriations menées par les grandes entreprises et qui menacent la survie de son peuple. Au Québec, l'offensive des éditeurs guadeloupéens au Salon du Livre de Montréal pour attirer des lecteurs et en particulier les Haïtiens. Le reportage de notre correspondante Pascale Guéricola. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour, bonjour à tous.
Dans votre revue de presse aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est un événement qui se passe bien sûr en France, mais qui interroge à l'étranger et notamment dans la presse du continent américain. Quel regard sur ces événements près de 48 heures après les débordements de samedi dernier?
Eh bien, à l'image de la France, l'ensemble de la presse du continent attend l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir. Pour le quotidien vénézuélien El Nacional, le président français devrait faire des annonces afin de contenter cette classe moyenne qui manifeste depuis près d'un mois et qui rejette une politique en faveur des riches adoptée par l'Élysée. La Republica au Pérou revient sur les débordements de samedi dernier avec des images qui, selon ce quotidien, démontrent la violence de ce mouvement. Au Chili, la Tercera titre sur Paris qui tente de retrouver le calme et d'effacer les stigmates des affrontements de samedi dernier. Une capitale fatiguée qui est remise en état par les vrais gilets jaunes, selon la Tercera, qui fait la référence aux employés municipaux.
Et en Amérique du Nord, Romain, on attend aussi l'allocution du président ce soir.
Oui, pour le quotidien canadien Le Devoir, l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir est un événement à ne pas manquer. La presse, elle, revient sur la mise en garde du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui hier a invité le président américain Donald Trump à ne pas se mêler de politique intérieure française. Un sujet, vous voyez, qui revient dans toute la presse américaine à l'image de la presse européenne.
Du côté des États-Unis, à présent, la situation est scrutée depuis plusieurs semaines et fait les gros titres à New York, la correspondance de Grégoire Pourtier.
Une photo des gilets jaunes sur les Champs-Élysées. C'était hier matin la une du New York Times qui consacrait une pleine page aux événements de samedi. Ce n'était pas étonnant. Les médias américains couvrent très largement ce qu'on appelle généralement ici les « yellow vests » et qui ne cessent d'intriguer. Ce week-end, le Washington Post faisait le constat que ce qui avait commencé comme une dénonciation de la taxe carbone était désormais d'une autre ampleur. Je cite « une révolte de la classe ouvrière contre Emmanuel Macron et particulièrement sa personnalité ». À la télévision, chaînes d'information et réseaux généralistes accordent aussi une place importante aux événements, faisant souvent tourner en boucle les images de violence plus attractives que les débats de fond. Ainsi, de même que Donald Trump tweete pour se réjouir ouvertement d'une crise qu'il attribue à l'accord de Paris sur le climat, la chaîne conservatrice Fox News ne cache pas son excitation face à ce qu'elle qualifie comme d'autres de « chaos ». Parlant de zone de guerre, un présentateur semblait ravi de voir le peuple français rejeter Macron, qui aurait mieux fait, selon lui, de prendre exemple sur le nationalisme de Trump, qui serait si populaire et si efficient. Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Et pour terminer sur les gilets jaunes, j'ajoute que l'allocution d'Emmanuel Macron sera diffusée ce soir à 20h, heure de Paris, sur notre antenne, suivie d'une spéciale jusqu'à 21h. On revient à l'actualité du continent romain. On commence par le Pérou. Les résultats du référendum organisé par la présidence, des résultats sans appel qui démontrent le soutien des Péruviens à leur président, Martin Vizcarra.
Oui, c'est d'ailleurs le titre de l'article en une de la Republica. Même si les résultats définitifs ne sont pas encore connus, de grandes réformes étaient proposées dans le but de s'attaquer à la corruption endémique dans le pays par le biais de ce référendum. Réforme de la justice, du financement des partis, obligation de respecter une pause entre deux mandats de députés ou encore remise en place d'une deuxième chambre au Parlement. Et selon les sondages de sortie d'urne publiés par le quotidien, plus de 85% des Péruviens soutiennent les réformes de la justice et du financement des partis politiques. Des chiffres qui démontrent le très large soutien dont dispose un président qui n'a pourtant pas été élu. Et c'est peut-être ce qui fait la force de Martin Vizcarra, estime El Comercio, puisque toute la classe politique péruvienne est pointée du doigt par les Péruviens pour ses pratiques illicites. Un résultat qui démontre le ras-le-bol des Péruviens, estime Pérou 21.
On reste encore un peu au Pérou romain avec cet accord de coopération entre le groupe de construction Odebrecht et la justice péruvienne.
Oui, c'est l'autre grande information en une de la presse nationale. Le groupe de BTP brésilien accusé d'avoir corrompu une bonne partie de la classe politique sud-américaine se serait engagé à donner des informations qui pourraient permettre d'envoyer derrière les barreaux quatre anciens présidents péruviens, détaille El Comercio. Et si, selon les autorités, aucune contrepartie n'a été réclamée par l'entreprise brésilienne, il se pourrait qu'en scellant cet accord de coopération, Odebrecht aurait tout de même obtenu l'assurance de pouvoir poursuivre ses activités au Pérou.
En bref, Romain, au Chili, la cacophonie au plus haut rang concernant le pacte sur les migrations de l'ONU.
Oui, la présidence chilienne a annoncé hier qu'elle ne signerait finalement pas le pacte piloté par les Nations Unies et donc qu'aucune délégation chilienne ne se rendrait aujourd'hui à Marrakech ni demain. Une initiative que Sébastien Piñera considère comme une camisole de force. Son ministre de l'Intérieur a été plus explicite dans les pages de la Tercera. Selon Rodrigo Ubilla, cette initiative est passée d'un pacte qui visait un dialogue international nécessaire à un pacte qui reflète certains standards internationaux qui ne sont pas applicables dans le cadre de la politique migratoire chilienne. Seul problème, les élus chiliens qui revenaient du Maroc suite aux réunions préparatoires n'étaient pas au courant de cette décision. Des élus qui venaient tout juste de signer une promesse d'engagement dans la mise en place de ce pacte, rapporte El Mercurio.
Direction le Venezuela, Romain, avec la très large victoire du parti au pouvoir, le PSUV, lors des élections des conseillers municipaux organisées ce dimanche.
Et oui, il faut préciser que l'opposition avait soit boycotté ces élections, soit avait été empêchée d'y participer. Un résultat qui est donc tout sauf une surprise, même si Diosdado Cabello, le patron du PSUV, le parti socialiste unifié du Venezuela, salue la participation des électeurs vénézuéliens dans les pages d'Ultimas Noticias, des déclarations qui contrastent avec le compte-rendu et les photos diffusées par El Nacional qui montrent des bureaux de vote vides. D'ailleurs, le quotidien publie les chiffres de l'abstention qui a atteint les 70%, des chiffres que la presse proche du pouvoir ne met surtout pas en avant.
Enfin Romain, avant de se quitter, un mot de la finale de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud, une finale qui se jouait hier à Madrid entre deux clubs de Buenos Aires, River Plate et Boca Juniors.
Et c'est River Plate qui s'est finalement imposé au terme de ce match retour qui aurait été très difficile à organiser. Titre ce matin Clarín, victoire 3-1 après le match nul 1 partout lors de la rencontre aller. Un match magnifique selon le quotidien. Il aura fallu tout de même attendre les prolongations pour connaître le nouveau champion sud-américain. Une victoire célébrée comme il se doit dans les rues de la capitale argentine, même si des incidents ont été rapportés devant l'obélisque de Buenos Aires, lieu où les supporters de River vont traditionnellement fêter leur titre. Des incidents qui ont causé quelques dégâts et arrestations selon le quotidien La Nation.
Merci Romain Lemaresquier pour cette revue de presse des Amériques. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont on célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire. Texte fondateur de l'après-Seconde Guerre mondiale, signé par 48 nations. Un ensemble de 30 articles de droits fondamentaux, malheureusement largement bafoués aujourd'hui dans le monde. Alors que s'achève cette semaine en Pologne la COP24, le sommet sur les changements climatiques, de nombreux peuples indigènes expriment leurs inquiétudes quant à l'absence d'engagement de leur propre état dans la défense de l'environnement. C'est le cas en Amazonie péruvienne où de nombreuses compagnies exploitent des territoires riches en ressources naturelles et pourtant peuplés d'Amérindiens qui revendiquent ces terres. Véronique Guémard a rencontré l'un de ces résistants lors du sommet mondial des défenseurs des droits de l'homme qui s'est déroulé fin octobre à Paris.
Je m'appelle Policarpo Sanchez Rodriguez, je suis leader Chipibo de l'Ucayali, membre de la Fédération des communautés natives de l'Ucayali et de ses affluents, la FECONAO.
Bonnet tissé et brodé de perles vissées sur la tête, pochette orange au motif géométrique autour du cou et tunique brodée main, Policarpo Sanchez Rodriguez revendique son appartenance à l'ethnie Chipibo de l'Amazonie péruvienne, une région petit à petit grignotée par de grands projets soutenus par l'État péruvien, dit-il, et qui mettent à mal l'intégrité territoriale, environnementale et culturelle des communautés indigènes.
L'État péruvien continue à octroyer des concessions d'hydrocarbures où des territoires entiers de populations indigènes sont menacés. De grandes infrastructures à coût d'investissements gigantesques sont en train d'être développées, connues sous le nom d'Hydrovia Amazonica, une sorte d'autoroute fluviale amazonienne. Ils veulent améliorer le lit de la rivière Ucayali, mais cela va porter atteinte à la fragilité de l'écosystème et au lit de ces rivières. Tout ça a des fins économiques. Et puis, l'État péruvien promeut l'expansion des monocultures d'huile de palme dans la région de l'Amazonie. Et ça, il faut le condamner, car on permet aux entreprises de détruire des hectares de forêts primaires pour ne planter qu'une seule espèce de palmier à huile. On se bat depuis l'Ucayali parce que l'État a permis la destruction de plus de 6000 hectares de terres vierges qui appartiennent au territoire ancestral de la communauté Chipibo, Santa Clara de Uchuña.
Les Chipibo Pibo de Lucayali, qui rassemble entre 25 et 35 000 personnes réparties sur 140 communautés, ont porté plainte devant la Cour constitutionnelle du Pérou contre l'État qui n'a pas su empêcher que ces entreprises d'huile de palme ne les dépossèdent de leurs terres. L'affaire est en cours et la décision pourrait faire jurisprudence.
L'État n'a aucune volonté pour consulter les populations avant de mener à bien ce type de projet, comme l'exige pourtant la législation péruvienne et les instruments internationaux. Ou alors ces consultations sont mal faites. Par exemple, ils mettent en place un atelier de formation et ils transforment cela en consultation. Ce sont des irrégularités qu'ils organisent pour que leur projet aboutisse.
Policarpo Sánchez Rodríguez n'en est pas à son premier combat contre la dépossession des terres de sa communauté. Dans les années 80, il s'est activement opposé aux exploitations de pétrole de l'entreprise Shell jusqu'à ce que l'État mette fin à ses concessions. Puis dans les années 90, contre l'américain Maple Gas et désormais contre l'octroi de ses concessions forestières. Alors que l'État met plus de 5 ans pour reconnaître les terres des communautés indigènes, il octroie ses titres en moins de 6 mois aux grandes entreprises, dénonce le leader Chipibo. Mais se mettre en travers d'entreprises puissantes, dont certaines multinationales, qui opèrent avec la complicité de l'État, ne se fait pas sans danger, reconnaît Policarpo Sánchez Rodríguez.
Ces grandes entreprises utilisent des intermédiaires pour mener des campagnes de harcèlement, de persécution, de menaces. Tous les dirigeants de mon organisation, la FECONAO, sont menacés de mort. Moi aussi je l'ai été. De façon anonyme, ils nous prennent en photo et ils nous disent « Tu sais ce qui va t'arriver ?» Et ils nous abordent directement dans la ville de Pucallpa. Par exemple, ils viennent nous voir en nous disant « Ah, c'est toi, tu sais ce qui va t'arriver ?» On a porté plainte. On s'organise aussi avec d'autres ONG pour éviter le pire.
Se puede hacer y se puede evitar consecuencias lamentables, ¿no? Le puedo decir que el año 2014 fueron asesinados 14.
En 2014, 14 dirigeants d'une communauté Saweto ont été assassinés. Jusqu'à présent, aucune justice n'a été rendue. L'an dernier, 6 paysans ont été assassinés près de notre communauté. Là encore, pas d'enquête. Donc on ne peut même plus circuler librement dans nos propres territoires. On vit des situations très compliquées à cause de la présence de ces grands investisseurs.
Policarpo Sánchez Rodríguez est très actif auprès des jeunes de sa communauté pour qu'ils prennent la relève. Mais leur territoire, de plus en plus grignoté par les concessions, est aussi pris d'assaut par des trafiquants de bois et de drogue. Il en appelle aux organisations internationales pour que ces crimes ne restent pas impunis.
Un entretien signé Véronique Guémard. Et tout de suite, un peu de littérature et de francophonie au Québec. Plusieurs éditeurs guadeloupéens s'intéressent à ce marché florissant en termes de lecture. Avec l'aide du ministère de l'économie, l'agence Business France leur a loué un kiosque au Salon du Livre de Montréal qui a eu lieu en novembre au Québec. Pascal Guéricola les a rencontrés à cette occasion.
Habitués généralement des salons du livre à Paris, plusieurs éditeurs de la Guadeloupe s'intéressent désormais au marché québécois. De plus en plus de citoyens de cette province francophone visitent en effet les Antilles et s'intéressent aux livres de cette région du monde. Sans compter que la présence de l'importante diaspora haïtienne en fait une destination intéressante pour les auteurs de La Perle des Antilles, édité par des maisons guadeloupéennes. C'est le cas des éditions Jazor qui ont convaincu l'auteur haïtien d'origine, Jean-Robert Cadet, de publier à nouveau Reste avec. Reste avec est un récit basé sur son expérience personnelle d'enfant esclave. Régine Jazor.
Il voulait vraiment que ça paraisse dans une maison d'édition qui se sentirait concernée par le projet. Parce qu'en fait, c'est une traduction. Il a écrit en anglais, parce que maintenant, il est devenu très, très anglophone, parce que ça fait longtemps qu'il vit aux États-Unis. Et en effet, il y avait des contresens au niveau de la traduction que seul un éditeur caribéen aurait pu voir. Ça s'appelle revue et augmentée par les photos et revue parce que c'est un texte qui a été complètement réécrit en lien avec l'auteur.
Pour Thierry Petit-Lebrun, dont les livres ont déjà été distribués au Québec, la province francophone constitue une destination à développer.
Je crois qu'il y a déjà historiquement des liens nord-sud et sud-nord vers le Québec et vers les Antilles par les Québécois qui viennent en vacances chez nous. On va peut-être réussir à, comme on dit chez nous, à lianer ça. En fait, la communauté antillaise actuellement qu'il y a, quand je dis antillaise, c'est Guadeloupe-Martinique. Elle est surtout pour les universités de Montréal ou de Québec qui viennent ouvrir leurs portes aux étudiants des Antilles. On n'est pas représenté ici d'une manière qui permettrait la fondation d'une maison d'édition antillaise.
Plusieurs des éditeurs présents pour cette mission exploratoire espèrent qu'ils pourront mieux desservir les créolophones qui habitent au Québec, en particulier ceux d'origine haïtienne. Il est en effet assez difficile actuellement pour les librairies montréalaises de faire venir des livres de Port-au-Prince. Les éditeurs ont donc profité de leur passage pour rencontrer des imprimeurs, des libraires, des distributeurs. Les explications de Willy Nestor.
Eh bien, nous sommes incroyablement surpris de l'engouement que nous avons reçu de la part de, que ce soit de syndicats, des libraires, que ce soit de certains distributeurs. Beaucoup de libraires nous ont rendu visite pour nous demander, par exemple, des ouvrages en créole. Beaucoup de publications en créole, que ce soit au niveau de la grammaire, au niveau des expressions créoles. Donc, c'est une affaire à suivre.
Satisfaits de l'accueil reçu, les éditeurs guadeloupéens travaillent maintenant à resserrer leurs liens avec le marché du livre québécois. Pascal Guéricola, Montréal, RFI.
Et tout de suite l'actualité d'Outre-mer avec le journal La Première Caraïbe avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, à l'Université des Antilles, le torchon brûle entre le pôle Martinique et le pôle Guadeloupe.
Oui, on n'ira pas jusqu'à évoquer le mariage de la carpe et du lapin, mais enfin, depuis l'origine, les deux pôles de l'Université des Antilles se regardent un peu, comment dire, en chien de faïence. Dernier épisode en date, la modification de la clé de répartition des ressources financières, modification selon le nombre d'étudiants et donc modification au profit du pôle Guadeloupe, ce qui, sans surprise, n'a pas du tout plu du côté martiniquais. Sébastien Gilles, La Première Guadeloupe.
Historiquement, cette doléance n'est pas nouvelle et le pôle guadeloupéen réclame ce rééquilibrage depuis de longues années, arguant effectivement que 60% des 12 000 étudiants de l'université sont inscrits ici. Sur ce critère et les autres que la loi propose d'étudier concernant ces questions, comme l'activité de recherche ou la surface bâtie des campus, le pôle Guadeloupe peut donc tout à fait prétendre à cette redistribution. L'assume ouvertement et la met même désormais en œuvre depuis cette année. Une entreprise partielle, selon la vice-présidente du pôle Martinique, est menée, je cite, par un collègue qui a déclaré être attaché à la défense des intérêts du seul pôle Guadeloupe. Fin de citation, extraite d'une note interne adressée à la communauté universitaire le 6 décembre dernier. Depuis, les montants ont été affectés, 600 000 euros cette année et 7 millions à terme que le président Jeanqui espère lisser sur 10 ans, à moins qu'entre-temps la Martinique ne fasse ses valises, son budget sous le bras.
La Martinique, justement, avec ce colloque international sur la démoustication qui s'est achevé vendredi dernier. Pendant 3 jours, des spécialistes de toute la Caraïbe et de l'océan Indien ont partagé leurs expériences, comme on dit. Reportage Christine Cupit.
Les insecticides restent les moyens les plus utilisés pour éradiquer les moustiques. Mais aujourd'hui, ils doivent faire face à des moustiques de plus en plus résistants. La suppression des gîtes larvaires aussi montre ses limites. Frédéric Simard, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement.
On a la même chose qu'avec les insecticides. On génère des résistances qui, cette fois-ci, ne sont pas physiologiques du moustique, mais comportemental. Le moustique va trouver d'autres gîtes larvaires où il va pouvoir se développer.
Aucun pays ni territoire n'est épargné par les moustiques. Ce colloque était l'occasion d'échanger les connaissances et les expériences de chacun. Joseph Roland, technicien territorial de la Guyane.
Ça m'a permis de voir que nos collègues voisins, guadeloupéens et martiniquais, sont dans la même démarche que nous. Que dans la Caraïbe, dans les autres pays anglophones, Saint-Kitts, Nevis, ils sont dans une démarche aussi, Sainte-Lucie, dans une démarche de lutte, avec leurs moyens.
La démoustication et la lutte antivectorielle sont des priorités pour tous les pays et territoires. Cela implique aussi la mobilisation de l'État, des municipalités et de la population pour faire face au risque de dengue, de Zika ou de chikungunya.
Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci Benoît Ferrand pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous être fidèles. On se retrouve demain, même heure, 14h10, heure de Paris.